Bonjour Kaori Ito. Vous avez même répondu avant même que je vous pose la question. Vous êtes né au Japon en 1979, vous êtes arrivé en France en 2003. Vous avez vu le tombeau des Lucioles?
Oui. Quand j'étais petite, en plus, j'ai un petit frère, donc on regardait ensemble et ça nous a beaucoup fait pleurer.
Oui, c'est un film qui fait beaucoup pleurer. Vous êtes familière de l'animation, en particulier de l'animation japonaise, ou pas spécialement?
Pas spécialement, mais je pense que celui-là, il y avait quelque chose de vrai, une vraie histoire derrière. Enfin, ce qui est drôle dans les animations japonaises, c'est que c'est fait pour tout l'âge. Tous les âges, mais c'est même pas pour juste des petits.
C'est même pas pour des petits, tout à fait.
On regardait avec
celui-là
en particulier. Oui. Et du coup, ouais, on avait cette canette avec des petits bonbons avec mon frère. Et on regardait ça en mangeant ce bonbon.
et la mort de Jacques Higelin vous touche aussi, puisque vous avez dansé avec son fils Arthur H.
Oui, ça a été un peu. Petit peu choquant hier, je suis allée pour une cérémonie de Christophe Salenglo, qui était aussi un ami.
Un comédien qui est mort il y a quelques jours également.
Voilà. Et du coup, ça s'enchaîne. Et je pense que c'était quelqu'un de très, très généreux, Jacques Higelin. Et j'ai beaucoup entendu parler de cet homme-là, de la part de son fils. Et son fils, on a partagé des moments assez forts. C'était un concert pour Clown sans frontières. Donc c'était complètement bénévole et tout ça. Et que c'était une soirée magique. Et il parlait de son père aussi.
Alors Kaori Ito, vous êtes danseuse, donc vous êtes également metteur en scène. Vous avez dansé avec Philippe Découfflet, avec Angelin Prège-Lecage, avec Alain Platel, Guy Cassiers ou encore James Thierry. Aurélien Bory vous a consacré un portrait. Vous avez aussi collaboré au théâtre avec des personnalités comme Édouard Baird et Denis Podalydès. Vous êtes passé à la mise en scène il y a 10 ans maintenant et vous montez actuellement un spectacle qui s'intitule Robot, l'amour éternel. Alors ça tombe bien puisque France Culture consacre tout un week-end aujourd'hui et demain au rapport entre les artistes et les robots. C'est à l'occasion d'une exposition qui a ouvert ses portes au Grand Palais à Paris. Et donc tout le week-end, nous allons vous proposer une programmation spéciale qui commence avec vous ce matin, Kaori Ito. Ce spectacle, Robot, l'amour éternel, c'est un solo, on vous y voit danser. C'est un solo dans lequel vous vous interrogez, en tous les cas c'est comme ça qu'on peut le voir, sur tout ce qui fait la frontière ou la charnière entre ce qui est humain, ce qui est inhumain, ce qui est animé, ce qui est inanimé, entre même tout ce qui fait la sensualité et la plasticité de la peau. Est-ce que vous vous méfiez des mots? Ça, c'est un spectacle précédent qui était avec votre père, c'était le titre d'un de vos spectacles précédents. Est-ce que vous vous méfiez des robots ou est-ce que vous leur faites confiance?
C'est un peu pour dire si on fait confiance aux humains ou pas. Enfin, parce que c'est des humains qui créent des robots et comme tel point on peut aller avec ça. Et ce qui m'a intéressé, en fait, c'était de ne pas faire un spectacle qui est dépendant de robots. Ça veut dire si la machine pète et tout, on peut pas jouer, c'est pas très cool.
Donc c'est vous qui dansez, vous et voilà qui dansez, il y a pas de robot sur scène.
Voilà, je voulais pas faire monter le robot sur scène, mais par contre, je voulais imiter le robot qui imite les comportements humains. Et avec un roboticien, on a parlé de aujourd'hui, ils cherchent souvent les robots androïdes en fait qui nous ressemblent, ils sont très à l'aise pour parler. Ils sont très à l'aise pour communiquer, mais par contre, là, ils sont en train de programmer l'état de présence. Ça veut dire le robot qui s'ennuie, ou le robot qui s'éteint, ou le robot qui est en attente. Et ça m'a beaucoup intéressé, en fait, de trouver des erreurs, de trouver des fragilités de la part de comportements humains qui est imité par le robot, qui est imité par moi.
Oui, d'accord, ça devient très compliqué. Vous disiez, Kaori Ito, que c'était un robot androïde qui vous avait inspiré. Il se trouve que les robots androïdes ou humanoïdes, on dit aujourd'hui, sont très très avancés au Japon notamment, où on a déjà créé des hôtesses d'accueil qui sont très ressemblantes à l'esprit et à la chair humaine. Et puis on a créé aussi une jeune femme qui a une vingtaine d'années et qui devrait d'ici quelques jours apparaître sur une chaîne de télévision nationale au Japon. Mmh. Cette jeune femme s'appelle Erika. On va écouter sa voix si vous le voulez bien.
Hello, my name is Erika. The Guardian released a documentary about me, and it seems that many of their viewers have questions for me. So, I would like to try to answer some of your questions in this video.
Okay, the first question comes from Mark from Australia, who wants to know, do you believe that your own identity is constructed from your memories?
Well, Mark, that's a really good question.
C'est une très très bonne question que pose Mark du Guardian, puisque c'est une vidéo qu'on a récupérée sur le site du Guardian. Oui. Vous avez déjà entendu parler d'Erika à Kawaii Ito?
Non, je crois que j'ai regardé, je crois que Sayaka ou...
Vous voulez dire qu'Erika ne sera pas la première journaliste à présenter le JT sur une chaîne nationale, parce que ça c'est vraiment présenté comme un événement. On parle au Japon d'ailleurs, ils sont évidemment très avancés en robotique et très intéressés par tout ce qui est robotique au Japon. Et on parle des robots, j'ai entendu dire qu'on parle des robots comme des kobos, c'est-à-dire des compagnons robots. Est-ce que ça vous effraie?
Ça veut dire que dans les maisons de retraite, par exemple, des personnes âgées, ils sont plus à l'aise de demander une aide chez le robot que des humains.
Que des humains.
Parce qu'ils sont mal à l'aise de demander certaines choses. Et je pense qu'il y a quelque chose chez les objets. On projette une émotion, tout ce qu'on veut. Et qu'il n'y a pas beaucoup de... aller-retour, mais en même temps, on peut imaginer que ils se sentent en empathie ou quelque chose qui est plus chaleureux parce que on a besoin de ça justement.
Il y a beaucoup d'émotions à chaque fois quand vous en parlez, dans votre voix en tout cas. Mmh. Est-ce que c'est l'une des explications du titre Robot, l'amour éternel de votre spectacle?
Moi, ce titre, en fait, Robot, l'amour éternel, c'est parce que déjà, l'amour éternel, ça peut jamais exister chez les humains aussi. Et j'ai pensé que c'était ironiquement intéressant, en fait, de nommer le robot l'amour éternel. C'est ce qu'on projette chez les objets. Quand on regarde une marionnette, on est très fasciné. On sait pas ce qu'il pense. Enfin, en fait, c'est un objet, il ne pense rien du tout. Mais on imagine qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va sentir.
Kaorito, votre spectacle s'ouvre sur cette sonate de Schubert, très lente, très douce, très belle. Et on vous voit arriver sur scène et vous parlez, enfin vous parlez pas, mais si quand même il y a un peu de voix, on va y venir. Mais en tous les cas, on vous voit danser en racontant à quel point la vie que vous menez de danseuse est une vie faite de tournées, est une vie saccadée, accélérée. Vous parlez du manque de temps pour vous poser, pour vous reposer, pour faire le vide. Comme si vous montriez à quel point vous étiez presque une machine à danser, presque une danseuse objet, ce qui fait un fort contraste entre cette musique et cette vie saccadée que vous racontez sur scène avec vos mots et avec vos gestes. C'est ça que vous avez voulu faire ? Ce contraste, ce hiatus ?
Oui, dans ce spectacle, j'ai mis le temps très très long et j'ai mis le temps très accéléré juste pour contraster tel point où on est comme ça dans la vie. Et c'est aussi, ça parle de mon journal intime qui parle des rencontres très brefs et très intenses. À chaque fois quand on est en tournée, on a beaucoup, beaucoup de... Enfin, on rencontre beaucoup de gens et qu'on est très, très, très émus, mais en fait, ça finit très vite et c'est comme s'il y avait beaucoup de séries de petites morts qui jouissent, après qui finissent, après il y a plus rien et on sent qu'en fait, on a besoin de vide pour créer et pour encore réfléchir à quoi on va partir.
Et vous dansez comme une marionnette téléguidée relié à un smartphone, vous dansez comme un robot, effectivement. Alors, qu'est-ce que ça fait de se mettre dans la peau d'un robot? Vous disiez, un robot qui, en plus, lui, cherche en général à imiter l'humain.
Oui, c'était pour moi une expérience de vider le corps et vider le cerveau quand on danse, mais on peut jamais vider tout, mais ça m'intéressait comment on peut vider, comment on peut être dans l'état quand on est mort, comment on danse, ou il y avait quelque chose un peu dans cette sens-là de recherche en termes de mouvement, et c'est aussi, je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions en fait quand on voit l'objet. Et je me suis dit, c'est fascinant comme on voit quelqu'un qui est vide et qu'on projette beaucoup d'émotions et pourquoi c'est aussi fort, le vide.
Vous disiez que vous aviez travaillé avec un roboticien. Est-ce que vous avez aussi observé des robots?
Oui, j'ai beaucoup observé des robots, mais pas beaucoup de YouTube. Et au début, j'avais trouvé une série de robots ratés. Donc, il y a des robots qui ratent des actions. Donc, le robot qui marche et qui tombe. Enfin, simplement, en fait, ce genre d'action que je voyais chez les robots, ça m'a fait penser à nous. Ça m'a fait
l'erreur est humaine, hein. C'est ce qu'on
dit. Voilà, c'est ça qui m'a intrigué au tout début. Et du coup, on a un peu cherché dans ce sens-là, le robot imparfait, ou même vous entendez la voix de Siri, l'application iPhone Siri, qui, et en fait, on a essayé de la faire des erreurs exprès. Donc, mais Siri, par exemple, elle peut dire l'hôtel, Brest, très très bien.
Wi-Fi. La voix Siri, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'application vocale d'un certain smartphone, voilà. D'une marque très connue, disons.
Et déjà, avec mon accent, il ne comprend rien du tout. Donc, il y a le côté très, très bizarre quand je essaye de faire la conversation avec le Siri, ça ne marche pas. Et il dit, par exemple, au lieu de dire Grenoble, il tremble un peu comme la voix qu'on a entendue. Il dit Grenoble. Et ça m'a beaucoup intéressé, en fait. C'est toujours de décortiquer des mouvements de nous et des gestes, et avec un sujet assez grave comme la mort, la vie et la naissance.
Et la solitude.
Voilà. Et à avoir une distance avec ça et de aussi rire avec ça, c'est très important.
Et vous parliez, Kaori Ito, de votre journal intime, de votre carnet de bord, qu'on entend effectivement lu dans ce spectacle, par exemple le 20 mars 2016, 21h30, mes parents me parlent de comment on fait au cas où ils meurent tous les deux. Dans ma famille, on parle beaucoup de mort. Mes parents me disent quoi faire pour récupérer l'héritage et où se trouvent les documents de notre maison. 2 heures, j'en ai marre de ce mode de vie tourné, je veux avoir une vie normale. Tomoko dit parfois, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Je veux dire cette phrase. Pourquoi suis-je toujours jetée comme une poupée? Toujours, c'est très intense. Et ensuite rien, je donne cette sensation aux autres aussi. Vous lisez, Kaori Ito. Et puis de temps en temps, on entend donc la voix de Siri qui prend le relais.
10 mars 2016, hôpital de Neuilly. Madame, ne vous inquiétez pas, vous êtes aux urgences. Je suis votre médecin, je vais vous examiner. Vous prenez des médicaments, vous avez mal où? Les chevilles, beaucoup, le cul, le cou. Vous avez des enfants, vous êtes déjà venu chez nous. Vous avez des maladies particulières, vous fumez, vous aviez quelqu'un dans votre famille qui a eu un cancer, vous êtes enceinte, vous aimez les enfants, vous êtes heureuse, à quoi pensez-vous? Vous êtes amoureuse, vous aimez vivre? Alors, dites ah ah ah.
Voilà l'une des petites phrases qu'on peut entendre dans votre spectacle de Kaori Ito. Quel effet vouliez-vous produire sur le spectateur en entendant cette voix très robotisée pendant que vous, vous dansez comme un robot sur scène?
C'est toujours de mettre des couches de robots humains, humains-robots qui imitent quoi, et ben ça mélange beaucoup entre ça. Ça veut dire, bon, dans cette scène-là de l'hôpital, c'est comme si l'humain pourrait être robot, mais qui, enfin, c'est Juju, un robot qui consulte une machine, mais qui représente l'humanité. Enfin, il y a beaucoup de scènes, il y a beaucoup de couches de entre la charnière, entre tout ce qui est inhumain et tout ce qui est humain.
Comment ensuite, puisque vous êtes danseuse, avez-vous créé une gestique si particulière, si difficile à faire? J'essaye de la faire, mais il n'y a pas la vidéo ce matin, on a déjà donné.
C'est super.
Kaori Ito. Donc, comment crée-t-on des gestes particuliers, des mouvements qui font effectivement penser réellement à des mouvements de robots sur scène ensuite?
C'est de penser l'espace plus que mon corps, en fait. C'est mon père qui disait que Kaori, maintenant tu arrives à danser bien, maintenant est-ce que tu peux bouger l'espace au lieu que l'espace te fait bouger? Et c'est quoi ce dialogue-là? Et que si mon bras se lève et que c'est l'espace qui lève mon bras, ça change beaucoup par rapport à je lève mon bras dans l'espace. Donc qu'est-ce que c'est le rapport avec cette manipulation entre l'espace et mon corps?
Certains justement dansent avec la peau, d'autres dansent avec leurs muscles. Vous, vous dites, Kaori Ito, que vous dansez avec vos os.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que ben j'aimerais bien danser avec quelque chose qui est invisible et que sous la chair en fait il y a des os et des articulations et que quand on voit pas justement la source de mouvement, enfin on le voit mais on l'imagine, ça donne plus d'imagination et j'ai l'impression que c'est plus intéressant, enfin chez moi. Personnellement.
On entendait tout à l'heure Schubert, votre bande son, la bande musicale de votre spectacle est importante, me semble-t-il. D'abord, on entend beaucoup de musique, on entend aussi du Bach, on entend aussi du Purcell, qu'on écoutera peut-être tout à l'heure dans la voix de Rosemary Stanley. Et là aussi, vous jouez sur ces contrastes entre une musique très très lente, très très douce, très très belle, et à chaque fois, sur scène, la vie robotisée, la vie mécanique. Avec ce plateau dont on parlera aussi dans un instant, mais avec ce plateau qui est fait de trous. Et on a du haut, du bas, du long, du court, du rapide, du lent. Ce spectacle, vous l'avez pensé comme un rapport à l'espace, mais comme aussi un rapport au temps, donc.
Oui, parce que c'est aussi le rapport avec la mort, avec la solitude. Et je voulais faire un scénographie de tombe. Où il y a beaucoup de trous et que je cherche une tombe sur mesure pour moi.
Vous êtes dans une humeur gaie ce matin?
Oui.
Enfin, cela dit, on a commencé avec les envies du week-end, oui, effectivement, voilà. Avec des hommages à des disparus hier.
Mais aussi, culturellement, en fait, au Japon, on parle beaucoup de mort tous les jours et on vit avec la mort, on vit avec les fantômes et on n'est jamais vraiment seul. On vit avec les morts. Et même s'ils sont morts, il reste quelque chose. On parle aussi de traces de la vie et traces de mort.
Alors lui est bien vivant, c'est Camille Manière, il vient de s'installer à côté de moi dans le studio puisqu'il est 7h30, Kaori Ito, on vous retrouve d'ici deux petites minutes, si vous le voulez bien, le temps d'écouter le rappel des titres de l'actualité. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour à toutes et à tous. L'ex-président brésilien Lula se donne quelques heures de liberté en plus. Il ne s'est pas constitué prisonnier hier comme la justice l'y obligeait. Lula et ses partisans de la gauche brésilienne dénoncent toujours l'acharnement d'une justice aux ordres, selon eux. Ce sera notre reportage dans le journal de 8h. En Hongrie, veille d'élections législatives dont le Premier ministre très à droite, Viktor Orban, attend une consolidation de son parti, le Fidesz. À gauche, les électeurs sont prêts à tout pour l'en priver. Certains pensent même à voter pour l'extrême droite, le Jobbik, nous dira Marie-Pierre Véraud. Les États-Unis bloquent aujourd'hui encore à l'ONU toute possibilité d'enquête indépendante sur les morts de Gaza. Hier, l'armée israélienne a de nouveau tué 8 Palestiniens au moins et en a blessé 400 dans la répression de manifestations à la frontière. En France, rien ne bouge sur le front des négociations à la SNCF. Impasse totale, la CGT accuse le gouvernement de rester intransigeant sur sa réforme et évoque une prolongation du mouvement de grève au-delà du mois mois de juin. La grève, elle reprend à Air France aujourd'hui, avant mardi et mercredi également. Jeudi, les négociations sur la hausse de 6% des salaires ont échoué. Un vol long courrier sur trois devrait rester cloué au sol dans cette journée. La République En Marche lance sa grande marche pour l'Europe, opération porte-à-porte, comme avant la présidentielle de l'an dernier. Mais cette fois, c'est pour aller prêcher la bonne parole européenne. Le Parti Socialiste lui tient aujourd'hui et demain son 78e congrès à Aubervilliers, au nord de Paris. Congrès de la Renaissance, incarné par le nouveau premier secrétaire socialiste, Olivier Faure. Des mesures, enfin, pour tenter de ramener la sérénité au lycée Utrio de Stain, en Seine-Saint-Denis. Après deux jours de mobilisation des élèves et des enseignants, la préfecture annonce qu'elle va renforcer les patrouilles policières autour de l'établissement, pérenniser également un poste de surveillant en plus. Le lycée Utrio fait face à des problèmes de sécurité, de violence ces derniers mois, dus, selon les personnels, au manque criant de moyens dans un établissement qui se dit abandonné par la République.
Eh bien, on vous retrouve à 8h pour le journal complet de la rédaction Camille Magnard sur France Culture. À suivre d'ici votre journal, à 7h40, la Fabrique médiatique qui mettra en scène le débat sur la grève à la SNCF, débat qui reflète dans la presse la bataille de l'opinion. Nous serons en compagnie de Denis Siffer de Politis et de Rémi Godot de l'Opinion. Et puis dans un instant, la suite de notre entretien avec la danseuse et metteur en scène Kaori Ito.
Ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus intelligents. Les robots n'ont cessé de fasciner les hommes. Week-end spécial Artistes et Robots, ce week-end sur France Culture. À retrouver sur franceculture.fr. Les pieds sur terre, chaque jour sur France Culture à 13h30, Sonia Kronmoun.
Une ou plusieurs histoires vraies, racontées par ceux qui les ont vécues. Une demi-heure de reportage sans commentaire.
Les pieds sur terre, du lundi au vendredi à 13h30 et sur franceculture.fr.
Et notre invité ce matin est Kaori Ito, danseuse et metteur en scène, qui danse comme un robot, qui imite un homme sur scène dans son spectacle L'amour, Robot, l'amour éternel, un spectacle qui parle de la mort, qui parle de la solitude, mais avec beaucoup d'humour. Et on en a entendu un extrait tout à l'heure dans le son que nous avons diffusé, qui montre aussi le hiatus entre la profondeur de ce que vous dites et de ce que vous dansez sur scène et les bizarreries technologiques qui vont très très vite. C'est en fait le troisième volet, ce spectacle d'une trilogie. Le premier était avec votre père, Kaori Ito, le deuxième avec votre compagnon. Et dans le troisième, il ne reste donc que des fantômes et une femme robot, c'est ça l'idée?
Il reste la relation entre moi et moi, je pense.
Entre vous et vous.
Voilà.
Et qu'est-ce qu'elle dit, cette relation de vous avec vous-même?
Je sais pas, parce que je pense que, en gros, je sens pas que je suis tout le temps moi et moi et seule. On n'est jamais seul. Et ce que je dis, c'est qu'il y a toujours nos fantômes, il y a toujours notre ombre. On peut pas être seul. Il y a toujours mon corps, il y a toujours mon âme, et il y a toujours quelqu'un à côté, ou il y a toujours des voisins.
Votre vie d'artiste est en perpétuel mouvement. Vous le montrez bien. Donc, vous êtes aussi toujours en tournée à voir des gens, même si les relations sont rapides.
Après, seule chose, c'est que quand j'ai donné une naissance à mon enfant, le fait de donner une identité, le fait de donner une vie à quelqu'un d'autre, ça m'a donné une vie. Et aussi, j'ai peur qu'il meure. Et ça m'a donné une angoisse plus que ce que j'avais avant. Et c'est une sensation très nouveau.
Et très bizarre.
Oui.
D'où ce spectacle avec une scène qui est donc un grand plateau troué de vastes cavités qui ressemblent à des tombes de différentes tailles. Et cette réflexion sur la naissance, la mort, l'éternelle renaissance. Vous montrez aussi une espèce de cycle de la vie. Est-ce que vous vous êtes inspiré, Kaori Ito, d'une culture particulière? Alors votre culture japonaise peut-être le théâtre no, je ne sais pas, d'une culture française qui est la vôtre aussi maintenant, de chorégraphe particulier?
Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que, enfin, il y a dans le bouddhisme, on dit qu'on renaît, c'est qu'après, il y a cette façon de l'incarnation où il y a le cycle de la vie qui recommence, qui s'arrête. Et j'ai l'impression que ça, je ne sais pas ce que c'est, mais le fait que la mort n'est pas la fin, et que c'est un commencement de quelque chose, ça me dit quelque chose.
Ça vous parle?
Oui. Après, je ne sais pas si c'est ça ou pas, parce que je n'ai pas parlé, je n'ai pas pu parler avec des morts, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, où peut-être c'est un moment de relâchement, et ensuite ça repart dans un autre endroit.
Un autre cycle, un ailleurs.
Voilà.
Vous dansez également avec des fragments de votre corps moulé, des moulages, disons, de fragments de votre corps et de votre visage, qui forment donc des masques. Que représentent ces moulages pour vous et ces fragments de corps?
C'est parce que la peau est une chose très humaine. Et c'est ça la différence, en fait. Chez Android, on met la peau. Et chez le robot, on ne met pas la peau. Et donc, il y a quelque chose de très, très troublant, en fait, la peau. Mais je voulais reproduire ma peau, ma jambe, mes fesses et tout ça, mon visage avec ma propre peau. Mais en même temps, de mouler avec une résine, donc ça fait un peu plastique. Mais en même temps, ce qui est drôle, c'est que c'était avant ma grossesse. Donc la peau a changé, donc c'est même en fait c'est pas je m'habille avec ma propre peau mais en plastique, mais c'est plus ma peau.
Merci beaucoup Corito, il faut voir ce spectacle qui est très beau. On l'a entendu qui est très intriguant aussi, très beau. Au 104 à Paris jusqu'à ce soir dans le cadre du festival Séquence Danse, il sera repris à l'Association pour la danse contemporaine à Genève du 8 au 18 mai et au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines les 25 et 26 mai prochains. Et puis le week-end Artistes et Robots se poursuit sur France Culture toute la journée, par exemple avec Plan large d'Antoine Guillot à 14h qui nous racontera une petite histoire du robot au cinéma. À 19h, dans Continent Musique de Mathieu Conquet, qui parlera des mélodies 2.0, notamment avec le musicien et chercheur François Pachet. Ou encore demain, à 14h, dans l'émission de Jean Deloisy, qui parlera spécifiquement de l'exposition qui a donné son titre à notre week-end spécial Artistes et Robots. Et c'est une exposition qui a ouvert ses portes au Grand Palais. Il recevra, Jean Deloisy, les commissaires de l'exposition, Jérôme Neutre et Laurence Bertrand d'Orléac. On va se quitter en musique avec Henri Purcell et la voix de Rosemary Stanley qui chante Aux Solitudes dans votre spectacle. Merci Kaorito.
Merci.
Oh solitude, my sweetest choice. Oh solitude. My sweetest choice, places devoted to the night, removed from tumult and from noise. Have revered to look today.